101.5 FM.
Yeah. What's up? Mm-hmm. Nigga. Yeah, it's me. Yeah. I'm back, baby. Come there.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. Il est 21h passé de quelques secondes. Et aujourd'hui, Calibre 58 vous invite à une émission un peu particulière. Avant d'en parler, nous aurons nos chroniques habituelles en compagnie cette semaine de Douin, Luc Douin, et de Bébé Toups Bébé. Au sommaire de cette émission, donc un peu particulière, on parle de l'espion au service de Sa Majesté. Une émission un brin old school, puisque ancrée dans le passé, avec Luc qui nous parlera du roman Casino Royal de Ian Fleming, une interview de Guillaume Évin qui publie chez Hugo Doc Bond, la légende en 25 films, Toups qui nous fera réécouter trois thèmes signés Paul McCartney. À la programmation musicale aux dents de requin, l'enfant solitaire. C'est le tour presse, James Bond qui passe au checker, c'est maintenant, générique maestro.
A medium dry martini, lemon peel, shaken, not stirred.
Vodka?
Of course. We'll have dinner at once. There's so much to discuss, so little time.
Thank you.
Radio G 101.5 FM.
Vous venez d'entendre la reprise du thème de James Bond par Moby. Vous ne le savez peut-être pas, mais mercredi dernier est sorti au cinéma un petit film qui s'appelle « Mourir peut attendre ». Et je dis petit film, mais c'est le dernier film de la franchise James Bond après une longue captivité. Les bobines de ce film ont été remisées au dépôt en raison d'un virus même pas russe. Le film, lui, il est réalisé par Kari Fuji Fukunaga, à qui l'on doit la première saison de True Detective. Là, c'est le dernier des 5 films de Daniel Craig. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la tendance à remettre du mourir dans les titres est revenue. On va encore s'y perdre. Comme cette émission est francophone et francophile, on a tout de suite écarté l'idée de l'interview de Daniel Craig. On aurait bien aimé recevoir Sean Connery, mais il s'est bêtement mis en retrait de la vie publique il y a un an, le 31 octobre 2020, ne l'oublions pas. Alors, on a choisi de partir à la rencontre de Guillaume Évin, et Guillaume Évin qui est à la fois journaliste et écrivain. Il s'est fait une spécialité de l'agent 007 sur grand écran. Pensez donc, des livres sur lui, il en a écrit une bonne douzaine. Certes, il n'est pas le seul, mais cette spécialité en feu est un peu le Sheldon Cooper des sciences bondiennes appliquées. Comment se renouveler, changer les axes de ses écrits quand on a tout ou presque déjà dit ? Son travail tient de la gageure. L'homme est un passionné, ses livres regorgent d'anecdotes, de faits cinématographiques, tente de mettre du lien entre chaque film, de comprendre ce que James Bond veut dire. L'année dernière, en compagnie de Laurent Perriot, il avait sorti chez Duno « Bon baiser du monde ». Il vient nous parler aujourd'hui de la sortie chez Hugo Dog de Bond, la légende en 25 films. On l'écoute maintenant.
W6N, 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 calling G7W. How do you hear me? Over.
G7W, London. G7W, London, receiving you. Over.
Stand by to transmit. Wait, out.
Guillaume Évin, bonjour.
Bonjour.
Qu'avez-vous pensé de Mourir peut attendre ?
Ah, c'est assez compliqué. C'est un peu un crève-cœur pour moi de devoir en parler parce que j'espérais un final grandiose à la manière de Casino Royale et finalement, on est plus confronté à un sous-spectre. C'est-à-dire que ce dernier film, Mourir peut attendre, du cycle Craig, referme magistralement la période pour lui. En revanche, le personnage de Bond est sacrifié et emmené dans une direction qui s'éloigne trop des canons du genre. Donc, voilà, il y a un effet déceptif. Je pense que les fans et les tenants de 007 seront déçus, parfois atterrés. En revanche, le film peut plaire à un nouveau public, celui-là même qui a été attiré par la fin assez sentimentale et larmoyante de Skyfall, par exemple.
Comment êtes-vous tombé dans la marmite James Bond 007, vous ?
Ça a commencé à l'adolescence, où j'ai voulu aller voir Octopussy, et puis j'étais un peu jeune, veto parental, alors ça a forcément avivé mon désir. Et puis enfin, j'ai eu le feu vert pour Dangereusement Beau, le dernier film avec Roger Moore, donc j'étais scotché. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai réalisé après qu'en fait, je venais de voir un des plus mauvais James Bond. Donc, ça m'a donné envie de passer de l'autre côté du miroir et d'essayer de comprendre comment fabriquer un Bond film. Et c'est ainsi que j'ai mené l'enquête et j'ai sorti en 2002, chez Fayard, un ouvrage qui s'intitulait Goldmaker, où je décortiquais toute la saga et j'expliquais qu'elle avait été conçue et gérée comme une marque forte, comme une marque de luxe presque, à l'égal d'un Dior ou d'un Chanel.
Et justement, où vous placez-vous dans la rivalité des interprètes de James Bond ? Parce qu'on sait très bien que les pros Sean Connery sont anti-Roger Moore en règle générale. Et vous ?
Ah non, alors, bon, il faut nuancer, hein, c'est Querelle de Chapelle. Non, moi je suis clairement pro Sean Connery, bien sûr, mais c'est pas pour autant que je vais dénigrer Roger Moore. Il a apporté beaucoup au rôle parce qu'il correspondait à son époque. C'était un Bond complètement différent. C'était en fait l'antithèse Sean Connery, mais nous étions dans les années 70, donc c'était un Bond beaucoup plus sémillant, charmeur, léger, désinvolte. On était dans une autre ambiance. Donc Je ne les opposerai pas artificiellement. Chacun d'eux a apporté au rôle et puis l'a nourri de sa propre personnalité. Mais c'est pareil avec Pierce Brosnan, George Lazenby, Timothy Dalton et Daniel Craig.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, moi, je dois vous faire une confidence. La première fois que j'ai vu Daniel Craig dans Casino Royale, je me suis dit, qu'est-ce que cet agent du KGB vient faire dans le rôle de James Bond ?
Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit qu'il avait une tête à se faire liquider dès le pré-générique. Finalement, au-delà des codes morphologiques, c'est-à-dire que si on s'affranchit justement du modèle incarné par Sean Connery, en fait, on voit que ce qui importe, c'est aussi la présence et le magnétisme. Et ça, pour le coup, Daniel Craig est un immense acteur parce que il impose une densité à l'écran. Il a quelque chose que d'autres n'ont pas. Après, on peut reprocher la pente prise par les scénaristes et puis on est allé vers, moi je trouve, trop de sentimentalisme, presque larmoyant, mais par contre l'acteur lui est irréprochable.
Est-ce que ce sentimentalisme larmoyant, il n'est pas plus à aller chercher dans les romans de Ian Fleming ? Parce qu'en fait dès le début il y a une différence profonde entre les romans d'Ian Fleming et les films.
Alors non. Alors pour m'être particulièrement penché sur la question, puisque mon ouvrage Il était une fois James Bond chez l'Archipel, ce livre a une sorte de récit biographique, enfin un essai biographique du vrai James Bond entre guillemets, celui imaginé par Fleming. En fait, on voit que le Bond des romans a peu à voir avec le Bond du grand écran. C'est-à-dire que le héros littéraire est sombre, tourmenté, il est âpre. Il est finalement peu fréquentable, assez insociable. Il ne va jamais au cinéma, il ne va pas au théâtre, il fuit comme la peste les dîners mondains, les cocktails, les vernissages. Tout cela, la somme, il est en fait entièrement dédié à sa tâche. Il sert la Grande-Bretagne, il est fidèle et loyal. Mais ça en fait un Bond presque névrosé par moment, parce qu'il est hanté par des missions qu'il a ratées, il est taraudé par des cauchemars récurrents, il est meurtri par ses blessures sentimentales. Et c'est finalement cet aspect-là que va reprendre le Bond des années Daniel Craig. Donc on a insisté sur les fêlures, les failles sentimentales du héros, mais en fait il y a bien d'autres composantes qui n'ont pas été explorées au cinéma. Le Bond des romans est beaucoup plus riche.
Est-ce qu'il subsiste encore dans les nouveaux James Bond ce merveilleux qu'il y avait dans les premiers? Alors je m'entends, c'était un peu avec ces personnages de freaks à la tête Browning, avec Requin, avec le nain asiatique, avec des personnes comme ça un peu entre guillemets étranges. Est-ce que ça subsiste encore ça aujourd'hui ou est-ce que ça n'a plus sa place?
Alors ça, c'était l'une des règles d'or que j'ai répertoriées, c'est-à-dire l'une des 15 règles d'or, c'était adjoindre le grand méchant d'un homme de main, un retors, pervers et ou doté d'une particularité physique particulière. Bon, donc c'est vrai que ça s'est un peu perdu, même si ça faisait justement le charme, alors le charme peut-être outrancier de la saga. Aujourd'hui, on est revenu à davantage... pas de modération, mais on cherche à lisser peut-être un peu plus les personnages. Alors, dans le dernier, on retrouve une particularité physique, oculaire notamment. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulguer l'intrigue, mais oui, ça va avec l'évolution des mœurs et de la société. On ne peut plus faire les bons des années 60 aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas dommage? Je dis ça parce qu'hier à la radio, on parlait d'une œuvre en deux volumes qui s'appelle Scared for Life et qui a été créée par deux journalistes anglais qui ont décortiqué ce qui passait pendant leur jeunesse à la BBC. Nous, on se rappelle forcément avoir tremblé devant Requin, notamment avec ses dents qui étaient à la fois magiques et horrifiques.
Oui, mais c'était génial. Et on a tous adoré ce personnage bigger than life, donc en 77 dans L'Espion qui m'aimait. Et puis là, d'ailleurs, le personnage va être tellement apprécié que Requin va revenir en fait à la demande du courrier des fans. Et donc le producteur va le réinjecter 2 ans après dans Moonraker. Mais oui, on peut le déplorer. Mais c'est sûr que idem avec Odd Job, le lutteur coréen avec son chapeau coupeur de tête. Bon, c'est un peu fini tout ça.
Est-ce que vous voyez un parfait successeur à Daniel Craig ?
Alors, je pense qu'il faut se laisser surprendre par le choix du casting. C'est toute la magie de cette série que d'avoir su se renouveler en permanence et d'avoir rebondit, sans mauvais jeu de mots, à chacune de ces phases de transition. C'est justement un des moments faibles, le passage d'un acteur à l'autre. Mais jusqu'à présent, les producteurs ont toujours assuré et ont dégoté la personne sur laquelle d'ailleurs personne ne misait, mais qui s'avérait excellente dans le rôle. Donc je pense qu'une fois encore, Barbara Broccoli et son demi-frère Michael Wilson vont prendre tout le monde à contre-pied et vont aller chercher un acteur en devenir, pas forcément très connu du grand public, mais peu importe, et c'est même préférable, parce que ce qu'il faut, c'est que l'acteur qui endosse le smoking ne soit pas marqué par ses rôles passés. Il doit pouvoir être Bond et non pas jouer Bond, c'est-à-dire donner l'impression qu'il est le héros et non pas quelqu'un qui passe de rôle en rôle et auquel échoue ce costume. Donc je pense qu'il faut oublier les noms qui circulent, les Idriss Elba, les Tom Hardy, etc. Ça, ce sera quelqu'un de méconnu.
Enfin, la sacro-sainte question, on écoute quoi comme musique ?
Ah, bah bien sûr, on écoute une musique bondienne. Alors moi, je vous laisse le choix. Alors, soit Billie Eilish, la dernière, No Time to Die. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle a des grandes chances de décrocher l'Oscar de la meilleure chanson en mars prochain à Hollywood. Et donc, elle serait la troisième victoire consécutive dans cette catégorie par les Bonds, puisque Adele, avec Skyfall, puis Sam Smith pour le film Spectre, ont remporté la statuette. Donc je crois en Billie Eilish. Ensuite, ça peut être aussi Live and Let Die, donc le tube intergalactique conçu par McCartney et les Wings en 73 pour Vive Laissez Mourir. Donc ça, c'est une belle histoire. En plus, la musique du film a été produite par George Martin, qu'on a souvent présenté comme le cinquième Beatles, qui était le reproducteur de la bande. Et voilà, donc ça, c'est une belle rencontre, les Beatles et James Bond, puisque en plus, il faut savoir que Dr. No est sorti le 5 octobre 62, le jour même, tenez-vous bien, où est sorti le premier 45 tours des Beatles, Love Me Do. Voilà, donc il y a toujours une histoire parallèle entre les deux emblèmes de la culture pop britannique. Et puis peut-être la troisième chanson, ça c'est peut-être un petit clin d'œil personnel, hein. J'adore Thunderball de Tom Jones, le gallois, c'est mon Bond préféré, donc je trouve que tout est parfait dans ce film, donc voilà pour mon top 3.
Je pense qu'on ne peut pas ne pas aimer Tom Jones. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on mettra du Billie Eilish. Ça sera de circonstances là. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Evin. Et je rappelle donc les titres de vos deux derniers ouvrages. Bon baiser du monde chez Duno, qui est coécrit avec Laurent Perriot, et Bond, la légende en 25 films. C'est chez Hugo Doc. Merci à vous.
Merci.
Paradise, now you're nervous. time to die.
No Time to Die ou James Bond à la sauce Billie Eilish, qui obtiendra l'Oscar selon Guillaume Évin. Je vous rappelle que Guillaume Évin vient de faire paraître chez Hugo Doc Bond, la légende en 25 films. C'est l'heure maintenant de passer la parole à Luc, qui pour sa toute première fois a lu pour nous Casino Royale d'un certain Ian Fleming, qui n'est pas l'inventeur de la pénicilline, je tiens à le souligner. Luc, c'est à toi.
Belle transition, et ce n'est pas ma toute première fois à moi, parce que finalement cette chronique toute première fois, c'est celle d'un autre, et elle est quand même délicieusement anachronique. À l'heure où sort le dernier avatar de la franchise James Bond, Mourir peut attendre, qui me semble être une tautologie rhétorique parce que, qu'on le veuille ou non, mourir peut toujours attendre, afin de coller à l'actualité, c'est sur l'œuvre de Ian Fleming que j'ai décidé de me pencher aujourd'hui. Alors, la toute première fois de Ian Fleming, c'était quoi ? Tout simplement Casino Royale, pourtant 21e épisode de la saga cinématographique, lui sorti en 2006. À Casino Royale, cela a un parfum de préhistoire en termes de roman noir. Écrit en 1953, il semble plus proche des arcanes des romans de John le Carré, qui n'a publié lui qu'à partir de 1963. Dans Casino Royale, dont le titre en français est « Espion, faites vos jeux », on fait la connaissance pour la première fois de James Bond, agent secret qui a acquis le 00, le permis de tuer, suite à des opérations conduites secrètement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà un dandy qui aime le whisky, mais on the rocks, et le martini, qui fume immodérément et qui roule en Bentley Supercharger, s'il vous plaît. On lui confie une mission très étrange, jouer au casino. Bizarre, me direz-vous, jouer au casino n'est pas une activité pour un agent secret. Oui, mais Bond est un excellent joueur et en réalité, sa mission réelle va être de ruiner le chiffre. Bon, je reprends depuis le début parce que je perçois bien que vous êtes égarés. Le chiffre est un des chefs de l'opposition en France, trésorier d'un syndicat ouvrier contrôlé par les communistes, bien entendu, en Alsace, est en réalité un agent soviétique infiltré, et le syndicat en question pourrait constituer une cinquième colonne soviétique en cas de conflit avec l'URSS. Rappelez-vous, nous sommes en 1953. Mais voilà, le chiffre a des goûts spéciaux. Il a acquis par exemple une chaîne de bordel en 1946, mauvaise pioche. Au même moment, la France votait la loi Marthe-Richard. Par ailleurs, il vit sur un grand pied aux frais du syndicat. Tout cela conduit notre ami tout près du précipice financier. Il lui faut impérativement se refaire, et c'est au casino qu'il va tenter sa chance. Vous comprenez maintenant le titre. James Bond va se voir adjoindre une numéro 2, Vesper Lynd, une femme magnifique et mystérieuse, et être aidée dans sa mission par Matisse, un agent des services secrets français, et par Felix Leiter, un agent de la CIA. Le roman se déroule en deux parties, la première autour du casino. Dans cette partie, Ian Fleming se fait un plaisir de décrire la vie balnéaire en France. L'ironie est cinglante. Une petite station proche du Touquet, tiens, le Touquet. Des habitués fortunés du luxueux hôtel, mais diablement décadents. Il rend parfaitement l'ambiance de la salle de jeu, de la roulette et du baccarat, jeu au cours duquel Bond s'opposera à Le Chiffre. La deuxième partie, celle de l'enlèvement de Vesper Lynd et de James Bond, est plus passionnante. La torture que va subir James Bond, je ne vous dis que ça, et j'aimerais pas la subir, est terrifiante, surtout parce qu'il n'en sort pas vainqueur. Au début du roman, on est presque pris à contre-pied, l'esprit complètement colonisé par l'imagerie développée par le cinéma autour de James Bond. Un homme viril, séducteur, indestructible. Ian Fleming nous présente un agent secret névrosé, cynique et paradoxalement romantique qui succombe au charme d'une femme jusqu'à vouloir se marier avec elle pour de vrai. Non mais ça va pas. Le fait que l'histoire se déroule en Normandie, dans le pays de Caux, sans aucune incursion dans un autre pays, est un élément de déstabilisation. Enfin, que les tenants et les aboutissants du roman relèvent de la politique intérieure française reste en 2021 déroutant. Déjà, les effets spéciaux, dont plus tard le cinéma va nous gaver, sont en germe. L'explosion de deux agents secrets, vraiment une explosion de deux agents secrets soviétiques, en plein cœur de la petite cité, est un modèle du genre. Mais ces effets restent peu nombreux. Ian Fleming s'attache plus à la psychologie des personnages, si bien que presque naturellement, le visage de Sean Connery se colle parfaitement sur son héros. Alors me demanderez-vous, y a-t-il recours ? Est-ce qu'il y a recours ? Je vous répondrai oui, à la page 45. En se présentant à Felix Leiter, l'agent de la CIA, Ian Fleming lui fera utiliser pour la première fois Bond, James Bond. Et ce James Bond-là va connaître encore 13 autres aventures, 11 de moins qu'au cinéma, mais ceci est une autre histoire.
Merci Luc pour cette chronique. Oui, alors il y a eu quelques petits ratés parce que le roman Moonraker est vraiment très bon et le film est vraiment très mauvais et n'a que rien à voir avec. Pour Casino Royale, la petite histoire quand même, c'est la première adaptation à la télévision. Peter Lorre joue le chiffre. Voilà, c'est un petit sérieux à voir qui est plutôt pas mal. On ne quitte pas James Bond. Petite pause culturelle avec Toups au saxo, mais pas en live. Et votre serviteur qui prend la parole, mais pas en live non plus. Nous sommes en 1962. Ils s'en passent de belle en Jamaïque. Un homme, puis sa secrétaire, sont abattus de sang-froid par trois hommes qui jouent les aveugles et qui se trimballent en corbillard. Pendant ce temps, Sean Connery, lui, joue du baccarat et de son charisme pour faire tomber dans ses bras une adepte du golf en intérieur. Derrière cette adaptation se cache Ian Fleming, auteur de romans d'espionnage. Le compositeur de comédie musicale Monty Norman est chargé de créer le thème de ce premier film de Terence Young, qui deviendra le thème de la série. Alors, il se rend sur l'île de la Jamaïque. Il s'essaie au bongo et à la guitare électrique. Plus tard, John Barry insufflera au thème un autre rythme. Mais la ritournelle est là, celle qui installe une ambiance, fait que le poil du spectateur se dresse à mesure que défilent les premières images d'un générique léché, esthétique, daté mais atemporel. L'agent au double zéro, qui lui accorde le droit de tuer, n'a pas encore l'habitude de son Walter PPK. Il minaude déjà avec Moneypenny dans les bureaux du MI6. Il ne connaît pas encore Q et ses gadgets. Il va faire face dans cette mission à un vrai vilain aux mains froides comme le métal de ses prothèses sur la petite île de Crab Cay. Séducteur impénitent, Sean Connery va tomber dans les filets d'une femme qui récolte des coquillages sur la plage. Le mythe est en place. Après Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig reprendront le flambeau à 26 reprises. Le film, c'est bien sûr James Bond contre Dr. No. Thank you. Sous le charme du saxo. Alors, je dois vous le dire, cette émission a été préparée longtemps en avance et pas plus tard qu'il y a 3 heures. Toups m'a fait une suggestion et puis là, bah, j'ai pas su dire non parce que, en fait, Toups, quand je lui ai proposé de venir dans cette émission, au début, c'était vraiment parce que, bah, un, c'est un putain de musicien et deux, c'est un putain de connaisseur de la musique. On est des putains de connaisseurs de ce qu'on connaît, en fait. Et là, il m'a dit, écoute, on peut pas parler de musique de James Bond si on passe pas un peu de musique de James Bond. Et puis, il m'a cité 3 titres. Alors, on va écouter chacun des 3 titres et tous, tu vas nous en parler. Tu es d'accord?
Ben, on va essayer.
Allons-y.
When you were young and your heart was an open book.
Paul McCartney. Tube absolu pour moi, ça dépasse largement le dernier James Bond.
But if this ever-changing world in which we live in,
regarde comme il te prend par la main, il te dit tiens, je te fais une petite chanson, la petite maison dans la prairie, j'ai ça en Angleterre. Et puis d'un seul coup. Ça s'emballe et d'un seul coup il y a du danger, il y a de la frénésie, il y a du suspense, il n'y a plus la petite maison dans la prairie, on est en train de parler d'un thriller, d'un film d'espionnage. Oui, c'est tout ça. Ben c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller jusqu'à la fameuse minute 23, parce qu'il y a une quinzaine de secondes où il y a un passage de reggae. Du reggae dans ce... Dans. Alors déjà, Paul McCartney qui fait du reggae, on a envie que quelqu'un nous pince, chacun. Et ben, oui, mais pourquoi il fait du reggae à ce moment-là? Parce que c'est un génie et qu'il connaît ses classiques. C'est un génie qui connaît ses classiques. Il se souvient donc que dans le premier James Bond, Dr. No, ça se passe...
En Jamaïque.
Donc il fait son petit clin d'œil de 15 secondes qui passe comme lettre à la poste. Et puis juste derrière, il met un accord psychédélique à la Queen. Et puis c'est le retour au pas de course de l'atmosphère qu'on vient de quitter, là, de thriller inquiétant.
Eh bien, je crois qu'on va passer maintenant au deuxième extrait.
Shirley Bassey, Madame Shirley Bassey. 80 et quelques ans aujourd'hui. Alors ça, c'est la musique du film Goldfinger. Et là, il se trouve que cette femme est la seule à avoir enregistré 3 BO de James Bond. Il y a Goldfinger, Diamonds Are Forever et le fameux Moonraker que tout le monde adore.
moi j'ai un fait pour Roger Moore parce que je le répète quand même, c'est le seul espion de sa majesté qu'on voit. Tu sais, il a ses en t-shirt qui sort d'une case à un moment donné. Il est crade, il est pas beau, je l'aime pas. Bref.
Ah oui.
Ouais, mais bon, Roger Moore a jamais eu. Ça n'a jamais été mon fort pour les James Bond.
Pour les James Bond, non. On peut dire The Saint, c'est très bien. Amicalement vôtre, c'était parfait.
Oui, tout à fait. C'était une bonne série télé.
C'était grâce notamment à Tony Curtis. Mais oui. Bon, le duo était fantastique. Mais James Bond.
Non, c'est kitsch. C'est trop. On peut dire là, c'est trop.
Je pense qu'on est d'accord, ce qui arrive peu souvent dans cette émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Shirley Bassey et sur cette musique ?
Shirley Bassey, ben écoute, c'est une méga star. Alors ben oui, ben justement, parce que j'étais en train de me poser la question. On était en train de parler de Roger Moore et puis je me disais, en général, on se dit, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon film ? Il faut des bons acteurs. Bon, alors là ok. Il faut des stars. Il faut des stars partout. Donc Shirley Bassey, c'est une méga star. 70 ans de carrière. Des succès dès le début, en fait, dès l'âge de 16 ans, elle a commencé à cartonner, puis elle n'a jamais cessé. Je ne sais pas combien de millions d'albums elle a vendu, mais je sais combien de dizaines de disques, c'est par dizaines, les disques d'or et puis les disques d'argent qu'elle a eu, c'est juste effarant. Et la voix, la puissance de cette voix, alors là, oui, Shirley Bassey, Goldfinger, il y a des gens qui imite Shirley Bassey et qui gagne des radio crochets.
On peut dire radio crochets, on a le droit de dire. Moi, c'est une émission old school, je l'ai dit en introduction. Donc, moi, je suis pour le radio crochet.
Tu sais, des genres de nouvelles stars en Angleterre. Il y a une personne qui a gagné un concours comme ça en faisant une imitation de Shirley Bassey. C'est pour dire à quel point elle a marqué le paysage, quoi. C'était la deuxième artiste en 95 après Sinatra à se produire devant le Sphinx et les pyramides d'Égypte à l'invitation du premier ministre égyptien.
Qu'en a dit le Sphinx ?
Il en a perdu son nez, je pense. Ou il a eu du nez, peut-être.
Il a eu du nez.
On ne sait pas trop. On va écouter le troisième extrait. Tu vas nous dire ce que c'est ?
Juste cette intro avant l'arrivée de la guitare et qui rend la guitare apaise tout. Il y a le feu juste avant. On se demande de quel côté ça tire. On a l'impression que ça tire de partout. C'est une artiste, une jeune artiste qui s'appelle Sheryl Crow, chanteuse, guitariste, qui joue de la basse, du piano, de l'accordéon, de l'orgue.
C'est autre chose que Billie Eilish, hein.
Ah ben là, bon, mais Billie Eilish, elle a à sa défense la jeunesse. Voilà, c'est quelqu'un qui sort de l'œuf. Ben, il faut qu'elle apprenne à vivre et puis c'est sûr qu'elle va faire quelque chose d'intéressant dans quelques années. Sheryl Crow, oui, 9 Grammy Awards entre 1995 et 2007, 30 millions d'albums vendus. On ne la connaît pas tellement. Et c'est curieux parce que moi, franchement, cette musique, il faut l'écouter. Hein. C'est l'album, c'est le film.
Tomorrow Never Dies.
Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. Aïe, 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 aïe. Alors, tu te rends compte, les premières paroles. Darling, I'm killed. I am in a puddle on the floor. Alors, chérie, je suis morte, mais je suis morte. J'ai été tuée.
Assassinée.
J'ai été assassinée. Je suis assassinée.
Oui, c'est ça. Oui.
Je suis assassinée. Je suis dans une mare sur le sol et j'attends ton retour. Ça, c'est les trois premières paroles. C'est extraordinaire. Et le reste du texte de la chanson tient ses paroles. Et la musique aussi tient ses paroles. Et la chanteuse aussi tient ses paroles. Ça fait beaucoup de paroles tenues. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est une des meilleures bandes de BO de James Bond.
Eh bien, nous avions tout à l'heure le top 3 de Guillaume Évin, et ici le top 3 de Toups. Il y en a un en commun, c'est celui de Paul McCartney.
Ça, oui.
Et évidemment, mais on ne pouvait pas passer à côté. Linda va nous parler tout à l'heure d'un film et de ce qu'elle en a pensé, mais Luc auparavant va nous en faire le pitch.
Oui, je vais faire ce pitch-là. Mais comment présenter un film que tout le monde a déjà vu tant de fois, puisque projeté régulièrement à la télévision ? Bon, je me sacrifie, puisque tu me l'as demandé, et puisque c'est ma mission dans cette émission. James Bond contre Dr. No. Ça commence à Kingston, en Jamaïque. Le professeur Strangeway, chef de la section du MI6, est assassiné par trois mystérieux aveugles qui, non satisfaits, semble-t-il, assassinent aussi sa secrétaire. Ces trois aveugles subtilisent dans le bureau de Strangeway deux dossiers dont l'un porte l'intitulé « Cop K » et l'autre « Docteur No ». Ça sent le mystère. À Londres, on observe à la Jamaïque une intense activité d'espionnage qu'on met en relation avec le projet des États-Unis d'envoyer une fusée autour de la Lune. Le chef du MI6, M, qu'on retrouve dans tous les épisodes, Bernard Lee, convoque James Bond, Sean Connery, pour élucider l'affaire. James Bond part sur le champ à Kingston, il y démarre son enquête, après avoir fait la rencontre de Felix Leiter. Tiens, Felix Leiter, qu'on avait déjà vu précédemment dans Casino Royal, qui est toujours agent de la CIA. Il découvre chez Strangeways un résultat d'analyse de minéraux. Il se rend dans le laboratoire du professeur Dunn, qui lui dit que l'analyse n'a rien révélé de spécial. Sitôt Bond parti, le professeur Dunn se précipite sur l'île de Crab Cay, d'où proviennent les minéraux du professeur Strangeway. Et sait-il deviner à qui elle appartient ? Au Docteur No.
Mais non.
Et la rencontre entre le professeur Dunn et le Docteur No est pour le moins agitée. D'abord, le Docteur No, ce n'est qu'une voix. Et cette voix, elle n'est pas vraiment commode. Bond, qui soupçonne le professeur Dunn de lui avoir menti, s'est fait livrer un compteur Geiger. Il découvre que les fameux minéraux prélevés par le professeur Strangeway sont radioactifs. Plus possible de reculer, il lui faut se rendre sur Crab Cay. C'est un film réalisé par Terence Young qui réalisera une année après Bon Baiser de Russie.
Et oui, et Terence Young qui adore les compteurs Geiger, puisque dans un autre film, Opération Opium, sur un scénario de Ian Fleming, il reprendra encore ses compteurs de Geiger. Et puis, on reviendra ou pas sur l'histoire de la radioactivité qui, dans ce film, est somme toute assez rigolote.
Tout à fait.
On écoute un extrait et Linda, dans la foulée, nous donne son avis sur James Bond et les femmes.
9 à la banque.
I need another 1,000.
I admire your courage, Miss...
Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr...
Bond. James Bond.
Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, raise the limit?
I have no objections.
Pas possible, madame. C'est illégal, monsieur.
Non.
C'est suivi, monsieur.
Like not to get me.
It's an idea at that. 8.
8 à la porte. 9 à la banque.
Excuse me. Thank you. Andre, I must pass the shoe. Jean-Jean, I hope you'll forgive me, but it's most important. Thank you.
Bonsoir les amis. Alors moi, j'ai bien travaillé. J'ai fait tout ça comme il m'avait demandé Julien. J'ai regardé James Bond contre Dr. No. Je vous dis tout net que j'ai dû lutter quand même contre un certain nombre d'a priori que je peux avoir à l'encontre des James Bond. J'en avais déjà vu, hein. Si. J'avais vu GoldenEye au cinéma, en plus. Et je dois même dire que je m'étais marrée. Notez, il y a un moment où je me suis marrée là aussi. C'est le côté musical du meurtre de l'araignée quand le beau Sean assène des coups à la vilaine méchante araignée tueuse là. Ça. J'avoue, je me suis dit, bon, c'est du second degré hors note. Je plaide pour le second degré et ça m'a fait rire. L'image des femmes, c'est ça ? À travers le James Bond. Alors la James Bond Girl, je mets Ursula un peu à part. J'en parlerai juste après, la belle Ursula. Je vais d'abord parler de l'ensemble des femmes qui se pâment toutes dès qu'elles rencontrent James. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'une belle femme ? Rien de plus subjectif et culturel hein, que la beauté. Mais là, quand même, hormis le côté « j'aspire mon ventre pour être la plus plate possible et j'ai du mal à respirer », pourquoi sont-elles aussi peintes et avec une choucroute sur la tête ? J'avoue, il y a une espèce de récurrence là-dedans. Je dis, mais je suis sûre que ces femmes étaient belles avant d'être accoutrées comme ça. Et puis, c'est sans parler de cette pseudo-sensualité, là, l'autre qui est sur son lit, au téléphone, qui roule, qui ramène sa jambe délicatement, alors que personne ne la voit, normalement. Je dis, oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait naturel d'être comme ça sur un lit, et c'est donc ça, la sensualité. Voilà, bon, toutes ces femmes qui tombent comme des mouches, hein, elles approchent de l'odeur du mâle, le mythe de l'Apollon irrésistible. Je suis désolée, mais j'arrive pas. Hein. Et pourtant, Sean Connery, mais autant j'adore celui du nom de la rose, et là, je suis complètement fan, subjective, et tout ce qu'on veut, sous le charme, que là... J'ai beaucoup de mal, notamment à cause de son comportement. Je trouve que ce personnage tue très facilement. Oui, il y a quand même le personnage d'Ursula qui dit mais pourquoi hein?
Parce que je dois le faire, chérie.
Non, il l'appelle pas encore chérie à ce moment-là. Oh, bon, vous aurez compris, j'ai trouvé ça long. Hein, je me suis pas hyper emballée. Je vous passe l'appréciation des autochtones, hein, bah forcément. Noirs, donc pas très finaux et peureux. Hein, voilà, on n'est pas dans les clichés du tout. C'est merveilleux. De toute façon, en gros, hein, c'est un truc de ceux qui sont beaux, qui sont forts, ou en tout cas qui sont intelligents, c'est les hommes blancs. Hein. Voilà, voilà. C'est marrant, j'ai l'impression de faire un peu toujours la même chronique. Et sinon, heureusement, hein, Ursula, ah merci, sans apparat, sans rien, une très belle femme, après avec le rôle qu'elle avait, je te trouve qu'elle elle a réussi à faire quelque chose, malgré l'absence de consistance, peut-être parfois, du contenu de ce qu'elle avait à faire. Voilà, voilà. C'est pas grandiose, hein, ce que je vous dis là. Pour tout vous avouer, je me suis plus marrée en regardant L'Avare avec Louis de Funès. Ouais, c'est pas le même style, hein, c'est sûr. Bon, mais... on continue, hein. Allez, gros bisous à tous.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Who is that?
On était en train de discuter de la présence d'Ursula Andress qui sortait de l'eau en chantant. On n'était pas tous tout à fait d'accord. Voilà, Calibre 58, c'est déjà fini. On a causé avec Guillaume Evin de James Bond. Topps nous a régalé avec les musiques de films. Luc s'est attaqué à un roman et Linda à un film. Et quelle attaque! On se quitte avec le thème de James Bond repris par Art of Noise. Clin d'œil à Elodie si tu nous écoutes. La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. Bye bye les amis.
Au revoir. Au revoir, à bientôt. We'll be right back.
We'll be right back. not be seen. C'est là que tout se crée, dans la piscine.
Radio G 101.5 FM.